Aujourd'hui, nous fêtons donc Sainte-Anne, qui est une solennité en Bretagne, puisque Pidis a donné Sainte-Anne comme patronne aux Bretons. Et Sainte-Anne nous est connue surtout par ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, notamment Saint Jacques. Donc ces textes sont des textes qui ne sont pas considérés comme révélés, mais qui racontent quelque chose, un peu quelque chose de potentiellement historique, même si par endroits c'est hypertrophié, voire extravagant, ce qui fait qu'on n'y porte pas crédit. Néanmoins, ça nous informe sur Sainte-Anne, et puis il y a aussi la patrologie grecque là, qui rapporte quelque chose de la vie de Sainte-Anne. Et puis la tradition patristique, avec notamment Jean Damascène, qui a beaucoup contribué à faire revivre le culte de Sainte-Anne. Et pour nous, en Bretagne, bien, il y a eu une apparition de Sainte-Anne à Nicolazic, lui disant Dieu veut que je sois honoré ici. Je l'ai été il y a très longtemps, et il retrouve une statue, la partie d'une statue de Sainte-Anne, qui indiquait qu'il y avait un sanctuaire. Voilà. Donc Sainte-Anne, mère de Marie, et donc grand-mère de Jésus. Alors Sainte-Anne est une femme assez effacée, mais c'est là aussi le passage. Je ferai volontiers le parallèle entre, bon, toutes choses égales par ailleurs, hein, entre Jean-Baptiste et Sainte-Anne. Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus, et Sainte-Anne qui porte en elle celle qui portera Jésus. C'est en Sainte-Anne que se produit le miracle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le 8 décembre, nous fêtons la Vierge Marie. Je suis pour. Et je veux dire par là que c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est en Sainte-Anne que s'est produit ce miracle de cette conception immaculée. Alors, la lecture du Cyracide, la première lecture, puisqu'il y a trois lectures pour la solennité, hein, Cyracide, Hébreu, et puis un petit passage de Saint Matthieu. Donc, le Cyracide chante la gloire de la postérité. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup de détails là-dessus. Postérité de Sainte-Anne, c'est Marie, Marie, Jésus. Bon, voilà, je crois que ça va de soi. En revanche, dans Hébreu, passage d'Hébreu 11, il est question de la foi comme accueil de la parole de Dieu. Et là, nous avons un accueil inconditionnel de la parole de Dieu qui se produit en Sainte-Anne. Quand je dis inconditionnel, je veux dire quoi? Je veux parler de la stérilité de Sainte-Anne. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un âge avancé. Donc en plus, elle n'a même plus ce qu'il faut pour pouvoir avoir des enfants. Et enfin, et je crois que c'est important, on n'y pense pas toujours, en tout cas du point de vue de la notoriété, il n'y a pas d'attirance par Sainte-Anne. Je veux dire par là que la grâce est première, que la grâce a choisi Sainte-Anne. Mais c'est pas Sainte-Anne qui s'est fait remarquer, le bon Dieu s'est dit, tiens, je ne l'avais pas vue. C'est une manière un peu sotte de dire une chose vraie. C'est un choix de Dieu. Ran en hébreu, ça veut dire la grâce. Marie est celle qui est gracieuse et qui va concevoir celle que Claire de Castelbajac appellera elle-même la grâce, en parlant de Marie. Voilà, c'est vraiment le lieu de la grâce, le lieu de la conception de Marie, c'est inouï. Alors il y a un parallèle avec Sarah dans l'Épître aux Hébreux, et c'est pour ça que je pensais un peu aussi à Jean-Baptiste, quoi. Sarah, c'est le début de quelque chose. Jean-Baptiste, il vient annoncer la venue de Jésus, et Sainte-Anne vient mettre un corps sur cette parole, antérieurement bien entendu. Mais là, nous avons un rôle extrêmement important de la femme. Pour que la parole puisse se faire chair, il fallait une femme. Les prophètes ont pu faire tout ce qu'ils voulaient, parler, avoir des oracles, et ils n'ont pas pu concevoir de parole. Il fallait une femme pour lui donner un corps. Et justement, dans l'Évangile, on nous dit ce petit passage qui est un peu énigmatique du reste. Bienheureux vos yeux pour ce qu'ils ont vu, et vos oreilles par ce qu'elles entendent. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, ce passage m'a fait penser, grâce à une lecture que j'ai faite par ailleurs, providentiellement, à un passage du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 9, on lit ceci: Prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues. Alors, nous, nous lisons ces choses, donc ces choses. Bon, je peux vous faire un dessin. Sauf que en hébreu, il y a écrit quelque chose d'un peu différent. Advarim asher ra'u aynecha. Donc, les dabar que ont vu tes yeux. Les dabar, c'est la parole. C'est extrêmement important. Alors évidemment, dvarim, ça peut vouloir dire tout ce qu'on veut, des choses, etc. Oui, mais chez les Juifs, le Deutéronome, ça s'appelle dvarim. C'est les paroles. Donc, on peut relire cette phrase en ayant, Ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ces paroles que tes yeux ont vues. Ils ont vu une parole, les Israélites. Quand Dieu faisait trembler la montagne. Et que lisons-nous un peu plus loin au verset 12e? Dieu vous parla du milieu du feu, vous entendiez le son des paroles, mais vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. Vous n'aperceviez qu'une voix. Et précisément, ce que je trouve bouleversant, c'est que en Anne s'accomplit quelque chose de cette voix qui va pouvoir prendre corps de la fille d'Anne. Cette voix que les Israélites entendaient prend corps en Jésus. C'est la parole, c'est la voix incarnée. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment effectivement bouleversant. Et si on a ceci à l'esprit, je crois qu'on entend différemment les paroles ces paroles de l'Évangile que Jésus dit, Heureux vos yeux parce qu'ils voient. Ils voient enfin cette voix, cette parole dont ils ont entendu parler mais qui ne s'était pas encore faite chair et qu'ils attendaient pour comprendre mieux, pour la célébrer, pour la louer. Entrons donc dans cette louange, dans ce mystère ineffable de Dieu qui se prépare une demeure, en l'espèce la Vierge Marie, et cette demeure est préparée en Sainte Anne. Voilà, et alors c'est l'occasion aussi de nous tourner vers ces grands-mères qui ont cette grâce incroyable parfois d'avoir un contact tout à fait inouï avec leurs petits-enfants, qui peut parfois même rendre jalouses les mères du reste. Voilà, il y a quelque chose là qui est à creuser, qui est à vivre. Et en tout cas, n'hésitons pas à invoquer cette grand-mère. Une petite histoire pour finir. Ça s'est produit à Lourdes. Une jeune fille qui était, je ne sais plus, qui portait un handicap. Je crois que c'était une paralysie des jambes. Je ne sais plus ce que c'était. Et alors elle va à Lourdes pour demander sa guérison. Et puis après son pèlerinage, elle n'est pas guérie. Alors son dernier moment à Lourdes, elle va devant la grotte et elle dit à la Vierge Marie, puisque tu n'as pas voulu me guérir, je vais le dire à ta maman. Et alors bon, c'est amusant, sauf qu'elle va à Sainte-Anne-d'Auray et à Sainte-Anne-d'Auray, elle est guérie. Voilà, petite histoire à la fois jolie, émouvante et touchante. Pour nous dire que parfois le Seigneur permet certaines choses ou permet que certaines choses n'arrivent pas pour qu'elles arrivent d'une manière plus belle et qu'elles mettent en valeur d'autres choses. Confions-nous donc à notre bonne grand-mère et pour les Bretons au moins à notre bonne patronne. Amen.